Merci beaucoup Frédéric Saïs. Et puisque l'on parle des affaires, Valérie Gounet, il y a un certain nombre d'affaires au Front National, ce qui signifie que le vieux slogan est du Front National « main propre, tête haute » et en partie démenti par les faits. Il y a donc cette affaire de la rétribution et du garde du corps de Marine Le Pen par le Parlement européen. Il y a le financement du micro-parti de Marine Le Pen, Rewan, qui là aussi est largement évoqué. On a l'impression que ça n'imprime pas dans l'opinion. Est-ce que ça signifie par exemple que les électeurs du Front, vous avez vu, ne le savent pas, ou bien est-ce que ça les indiffère, ou bien est-ce qu'ils considèrent que de toute façon, par contraste, le FN est plus propre que les autres partis?
Ben, je crois que vous avez tout compris. C'est un peu ça, quand on a rencontré ces personnes pour l'illusion nationale, c'est ce qu'on a vraiment ressenti. Évidemment qu'il y a ces histoires financières qui sont actuelles et d'autres qui vont certainement peut-être arriver, quoi. Et pour eux, le tous pourri, c'est avant tout les adversaires politiques du Front National. Mais justement, quand je vous écoutais tout à l'heure, je me disais...
Quand vous écoutiez Frédéric Saïs.
Oui, pardon. Quand on a terminé le livre, là, l'illusion, mais on serait encore devant eux à les entendre. Et évidemment que l'affaire Fillon, évidemment... que ça va encore plus accentuer ce désenchantement politique qu'ils ressentent. Vous savez, quand on va à Hénin Beaumont, il faut savoir que Steve Briwa a été élu au premier tour, maire FN, mais il a été élu dans un contexte politique assez démentiel, quoi. Un des précédents maires, je pense à Gérard Dallongeville, a été quand
Parti
même...
Parti socialiste.
Oui. Mise en examen et incarcéré pour, entre autres, détournement de fonds. C'est ça aussi, ces élections, ce qu'elles soulignent. C'est évidemment une adhésion à un parti, mais aussi un rejet avant tout des autres partis qui sont englués dans des affaires, ils n'y croient plus.
Est-ce qu'ils font attention, justement, dans leur gestion municipale à être irréprochables? Est-ce que ça fait partie de leurs préoccupations? Parce que auparavant, on a vu, par exemple, Jean-Marie de Chevalier, qui était maire Front National de Toulon, qui a été destitué suite à un certain nombre de scandales, qui n'avait rien à envier à d'autres municipalités, Valérie Gounet.
Oui, ils pointent justement cette différence qu'ils entendent avoir entre les municipalités FN de 95 et Vitreuil en 97 et celle-ci. C'est vrai qu'ils avancent comme soi-disant ils ne feront aucune faute financière par rapport à leur gestion.
Enfin, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui.
C'est ce qu'ils avancent.
Même si, effectivement, quand on prend le cas de la mairie d'Hayange, on peut pas dire que la gestion et la personne de Fabien Engelmann soit un cas de probité en matière d'affaires, puisqu'il a déjà été condamné, là, pour le coup, sur ses financements de campagne électorale précédentes. Il n'a pas été rendu inéligible puisque les sommes en jeu étaient trop faibles, mais il a été condamné.
Et puis il y a des bisbilles au sein de l'ancienne équipe avec déjà des départs. Donc on voit là aussi que il y a une ancienne adjointe qui promet de faire des révélations, Valérie Gounet.
Oui, Hayange, la municipalité d'Hayange, c'est comme une sorte de cocotte minute. On se demande si ça va exploser. Le conseil municipal est très fragile, très bruyant. Et c'est vrai que d'ailleurs, Marine Le Pen, le Front National, a envoyé deux jeunes pour, entre guillemets, on va dire, surveiller la gestion municipale d'Engelmann, oui, bien sûr.
Alors ça, c'est donc le Front National actuel, et puis il y a le Front National canal historique, il y a aussi des gens qui se considèrent comme étant fascistes. C'est par exemple le cas de votre cousin Philippe Pujol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex à France Bleu Provence et vous publiez un récit qui s'intitule « Mon cousin le fasciste ». C'est un récit véritable puisque ce cousin est véritablement votre cousin et il est véritablement fasciste. Et il y a une phrase dans votre livre qui a attiré mon attention. « Votre cousin ne veut surtout pas qu'on le confonde avec des populistes ». Et d'ailleurs, il dit « Il y a des populistes », et ça, c'est un terme très méprisant dans sa bouche, « et puis il y a les fascistes ». Expliquez-nous la différence pour lui.
Ben pour lui, et je pense qu'il a raison en plus, les populistes, c'est ceux qui vont dire ce qu'il faut dire au moment, pour être dans l'air du temps, à un instant T. Alors que les fascistes croient en une doctrine, qui est le nationalisme, hein, et cette doctrine-là est l'objectif final. Là où le populiste est prêt à aller dans tous les sens pour pouvoir prendre le pouvoir.
Et alors donc, votre cousin, qui est connu au sein de la mouvance fasciste ou fascistoïde, c'est Ivan Benedetti. Et alors lui, effectivement, il ne cherche pas du tout à se normaliser ou à se banaliser, c'est-à-dire qu'il porte haut ses idées, lesquelles sont racistes, antisémites, et il ne souhaite pas du tout mettre d'eau dans son vin.
Pas du tout. C'est un des premiers à se faire exclure du Front National au début de la grande dédiabolisation. Et c'est devenu un ennemi du Front National. En tout cas, médiatiquement, c'est un ennemi du Front National. Et moi, je trouve qu'en fait, il sert beaucoup à tester un petit peu toutes les thèses les plus extrêmes pour voir comment elles passent. C'est celui qui permet de faire les dérapages. Et ensuite, un Front National plus dédiabolisé prend ce qui est donc plus populiste, prend ce qui est possible médiatiquement à un moment donné.
Alors on voit ce que le Front National lui reproche. Qu'est-ce que lui reproche au Front National ?
Sa dédiabolisation, le fait que on ait au pouvoir du Front National quelqu'un comme Philippot, par exemple, qui, comme l'a dit quelqu'un de son entourage, a toutes les tares pour être au FN. Donc voilà, c'est un Front National qui ne serait pas dans ses principes de départ, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés juste après la guerre d'Algérie.
Et effectivement, dans cette diatribe, dans ces diatribes contre le Front National, donc on voit bien que ce qu'il vise, c'est cette normalisation, ce que vous appelez la normalisation du FN. Est-ce qu'elle est feinte, selon lui ?
Alors, selon son entourage, non, pour lui, elle n'est pas feinte par ceux qui sont à la tête du Front National. Mmh. Mais par contre, et ça j'ai pu le vérifier, au sein du Front National, y compris dans des fonctions importantes, il y a de nombreux canaux historiques. Et ils sont surtout puissants. Je ne sais pas si ce sont les plus nombreux, mais en tout cas, ils sont puissants.
Par exemple ?
Ils ont leur mot à dire. J'ai rencontré, moi, quand j'ai fait la marche de la phalange, c'est-à-dire les fascistes espagnols, c'est-à-dire on fait une marche de 50 km sur l'autoroute de nuit au pas militaire, donc quelque chose d'assez rude quand même. Il y avait un contingent de Français avec les fascistes français, et ils étaient tous au Front National, ils étaient tous pas militants, mais ils étaient tous élus. Beaucoup étaient élus au Front National dans différentes sections. Hein, et donc ces gens-là espèrent à la stratégie de la dissimulation de Marine Le Pen et espèrent qu'une fois au pouvoir, ils pourront mettre en place ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une dictature de transition vers une dictature. Alors je ne dis pas qu'ils y arriveront, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que c'est leur espérance.
Voilà, ils pensent que Marine Le Pen pourra se révéler beaucoup plus à droite qu'elle n'est, ou alors authentiquement fasciste, puisque après tout, le clivage droite-gauche, dans ce cas d'espèce, n'est pas nécessairement la catégorie la plus adéquate. Et puis alors, ce que l'on découvre aussi, toujours dans cette distinction entre fascisme et populisme que vous décrivez, Philippe Pujol, c'est aussi le fait que votre cousin a des références qui ne sont pas forcément des références très connues dans le pays, parce qu'elles appartiennent donc à un certain nombre de groupuscules ou de minorités actives, par exemple à certains Hervé Ryssen.
Ces gens-là se moquent de nous, sans arrêt. C'est dans leur nature. Mais ça n'arrête pas. Vous allumez la télévision, vous allumez la radio, vous allez au cinéma, on se fout de notre gueule. En permanence. Mais à la rigueur, on pourrait le supporter. Ce qui est difficilement supportable, c'est de voir que nos compatriotes ne le voient pas. Bon, moi j'ai essayé de l'expliquer par tous les moyens, avec mains exemples dans les bouquins. J'ai essayé de vous le dire. Mais ça n'arrête pas.
Un extrait donc des propos d'Hervé Ryssen. Qui est cet homme ?
Lui, c'est on va dire l'écrivain antisémite du moment, quoi. C'est celui qui est le plus lu dans le monde antisémite, qui est peut-être pas un monde immense, peut-être pas un monde si grand que ça, mais en tout cas qui est un monde très actif, très puissant par son activité. Et c'est une sorte d'égérie de l'antisémitisme, très vieille école hein, en soi. Qui croit au judaïsme politique et qui veut qu'on lutte contre le judaïsme politique, donc Israël qui a la main mise sur le monde entier avec les Américains qu'ils appellent les Yankees, et que la totalité des maux de la planète, et y compris l'islam en France, viendrait de la volonté des Juifs.
Et alors, au sein de cette nébuleuse fasciste, Philippe Pujol, que vous décrivez au travers du portrait de votre cousin, on voit qu'il y a des groupuscules, des sous-groupuscules, des gens qui ne s'entendent pas. Donc, vous expliquez comment votre cousin doit protéger Hervé Rissen, qui est menacé par d'autres fascistes, qui considèrent évidemment qu'il y a là un risque de dérive, puisque on est à chaque fois dans la surenchère et dans la volonté de pureté. Ce qui est intéressant, Valérie Higounet, c'est de comparer ce discours, donc le discours de ces gens qui est encore une fois un discours qui est très référencé sur le fascisme, avec une proximité par exemple avec les fascistes espagnols qui ont l'avantage de la proximité du fascisme, alors que Pétain, qui est l'une des idoles d'Ivan Benedetti, est historiquement plus éloigné que Franco. Qu'y a-t-il en quelque sorte de distinct entre ces références-là et les nouvelles références intellectuelles du Front National, Valérie Higounet?
Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, et on a tout à l'heure évoqué, par exemple, la personne de Florian Philippot. Hein, aujourd'hui, au sein du Front National...
Donc, qui est un ancien chevènementiste, qui vient de la gauche, qui vient du souverainisme.
Je répète, hein, aujourd'hui, ce parti se revendique et de droite et de gauche. On est plus du tout là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, même à sa fondation.
Ça, pour le coup, l'absence de catégorie droite-gauche, c'est aussi un point commun avec le fascisme.
Oui, et même à sa fondation, le Front National, justement, j'allais vous dire, il se revendiquait comme un parti de droite. Donc, vous voyez, entre la revendication et ce qu'il est réellement, évidemment, qu'il faut bien voir et il y a un décalage. Mais il faut bien être clair là-dessus, quoi. Hein. Ce Front National de Marine Le Pen n'a plus ses références. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on soulignait, et c'est ce qui est souligné dans cet entretien. Il y a quelques personnes qui sont là et qui existent. Hein. Nous, on en a rencontré. Hein.
Mais alors, si on met de côté ces personnes-là, quelles sont les références qui aujourd'hui sont prégnantes au sein du Front National? Parce que on a quand même vu, par exemple, Marine Le Pen citer Laurent Oberton, qui est donc cet auteur qui avait publié La France orange mécanique et un ouvrage présentant le pays comme étant à feu et à sang. On sait également qu'elle s'est prévalue d'un certain nombre d'auteurs qui, là, ne voulaient pas du tout être instrumentalisés par... le Front National, je pense notamment à Christophe Guillouy, on voit en quelque sorte qu'elle dessine un paysage intellectuel qui est très différent des auteurs fascistes passés ou présents que fréquente le cousin de Philippe Pujol.
Oui, ce qui est tout à fait logique en plus. Les références aujourd'hui du Front National sont avant tout politiques. Je pense par exemple à Jean Jaurès, vous voyez, à ces hommes qui appartiennent à un panthéon de la gauche et qui veulent justement récupérer. Quand on va, il faut voir que quand on est dans le bureau de Steve Briouat, il a la statue, le buste de Jean Jaurès dans son bureau. Vous voyez, ils accaparent une certaine politique et ils revendiquent un héritage. Donc c'est là avant tout. Et c'est évident que d'autres références intellectuelles, il y a un détournement et comme vous le soulignez parfaitement, certaines personnes, certains auteurs sont contre cette récupération.
Qu'est-ce qu'il espère, votre cousin Philippe Pujol? Est-ce qu'il pense que les fascistes arriveront au pouvoir un jour? Est-ce qu'il pense que le Front National va en quelque sorte leur offrir un marchepied?
Alors lui, il est vraiment pas du tout Front National. Lui, il n'est pas dans cette idée du Front National dédiabolisé qui permettra son arrivée derrière. Lui, il est vraiment l'envie de prendre le pouvoir par des méthodes révolutionnaires, c'est-à-dire une période de trouble de quelques jours et à ce moment-là, des gens qui sont placés dans le monde judiciaire, dans le monde même politique et réussir d'un seul coup à prendre le pouvoir. Donc plutôt un putsch, plutôt quelque chose qui n'est pas démocratique. Après, son entourage proche, parce qu'il est assez seul là-dedans, son entourage proche croit dur comme fer que l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir permettrait de leur accéder eux-mêmes au pouvoir dans un second temps. Et je trouve pas ça complètement farfelu, puisque il y a quand même dans l'entourage de Marine Le Pen très proche des gens qui sont issus de cette idéologie à papa, hein, à Jean-Marie, qui sont aux aguets, à l'affût d'une prise de pouvoir, puisque le Front National, c'est ni plus ni moins qu'une somme de différentes xénophobies, des xénophobies qui s'entendent pas les unes les autres. On va avoir les antisémites, on va avoir les islamophobes, mais ces deux-là vont s'entendre pour être homophobes, puis toute cette soupe-là donne pour le moment le Front National, mais c'est quelque chose d'assez fragile. Donc ils espèrent, sur les anciens de l'œuvre française comme mon cousin, espèrent que cette fragilité leur permettra de prendre le pouvoir quand eux-mêmes seront au pouvoir.
Vous parlez des références de Jean-Marie Le Pen. Si Jean-Marie Le Pen était resté à la tête du Front National, votre cousin Yvan Benedetti serait resté.
C'est certain, puisque quand le Parti National Français, le PNF, a été réactivé récemment, il y a, et donc avec Yvan qui était dans le coin, dans l'entourage, qui est, s'il n'est pas à la tête, il n'est pas loin, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était présent, qui était représenté, qui avait envoyé un courrier pour donner son avis très positif à la réactivation du PNF.
Mais alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans votre récit. Donc, vous racontez le pèlerinage de votre cousin à l'Île-Dieu sur les lieux donc où le maréchal Pétain a été, et vous montrez en quelque sorte son pétinisme. Comment conjugue-t-il son ultranationalisme avec le fait quand même que maréchal Pétain ait été collaborateur, qu'il ait offert en quelque sorte la France aux nazis? On voit mal comment on peut conjuguer les deux choses. Comment le fait-il lui intellectuellement?
Il pense tout simplement que maréchal Pétain a protégé la France, une thèse d'extrême droite classique, que le maréchal Pétain, au contraire, a permis à ce que les nazis n'envahissent pas l'intégralité de la France et a été une sorte d'amortisseur.
Oui, mais dans ce cas-là, c'est de l'autre côté qu'il est paradoxal, puisqu'il dirait que le maréchal Pétain a protégé la France contre les nazis, mais lui-même est nazi. Lui-même votre
est fasciste. Il est fasciste. Il se revendique pas comme nazi. Il est plus proche
un fasciste
des fascistes espagnols. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est.
Ça devient un peu compliqué comme histoire.
C'est très. De toute façon, quand on est dans le milieu là, on voit bien que tout le monde se déteste. Ils se détestent tous les uns les autres, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes ennemis et ils n'ont pas tous les mêmes méthodes pour atteindre ces ennemis. Ce qui fait qu'on obtient des fausses subtilités et un mélange de choses qui peuvent se grouper autour d'une notion qui est la notion de système. On est tous anti-système. Ça, c'est la notion qui les regroupe. Mais en fait, à l'intérieur, c'est extrêmement fragile.
C'est une notion qui a
fragile.
Dépassé le cadre de votre cousin et de ses amis.
C'est eux qui l'ont créé. C'est-à-dire que la notion de système est créée par les fascistes. Et depuis, ça a débordé largement.
Largement, comme vous dites. Valérie Higounet, un commentaire à ce sujet.
Quand j'entends tout ça, il faut bien, pour moi, préciser certaines choses. On parle d'une grande famille politique qui est l'extrême droite française. On parle d'un parti politique qui est le Front National et d'autres, on va dire, groupuscules radicaux. Et ils ont vraiment des visions différentes et pourquoi pas même antagonistes sur certains points, et dont sur une, c'est l'accession au pouvoir. Le Front National n'est pas du tout comme le PNF, il faut bien voir, et on n'est pas du tout dans la même genèse, dans la même histoire et dans les mêmes références historiques et politiques, vous voyez, même si il y a des points communs. Hein, on est dans cette famille de l'extrême droite française, mais il faut bien distinguer les deux quand même.
Bien sûr, mais si on essaie de catégoriser les choses, en tout cas, si on essaye de voir quels peuvent être les fils à tirer, il y a au moins le fil de la xénophobie qui là est particulièrement clair. Il y a le fil de l'anticapitalisme. Oui, mais c'est un nationalisme compliqué, parce qu'un nationalisme qui offre la France aux Allemands dans un cas, qui considère que la race a une suprématie par rapport à la nation, voyez, là aussi, c'est un nationalisme qui est réélaboré. Alors que, encore une fois, la xénophobie et l'anticapitalisme, là, c'est un point commun entre ces deux mouvements.
Bien sûr, au sein de cette famille, on est bien d'accord, bien sûr, il y a des filiations historiques, évidemment, mais il faut vraiment, je pense, quand même distinguer ça, et aussi ce terme de fascisme, vous voyez, c'est compliqué de se revendiquer, on se revendique peut-être néo-fasciste, mais ou nazi, ça se rapporte à des périodes historiques précises.
Philippe Pujol, je précise, et ce sera la conclusion, que votre cousin a demandé que vous appeliez le livre que vous lui avez consacré, Mon cousin le fasciste, il voulait pas un autre titre.
Enfin, c'est moi qui lui ai proposé ce titre, et il était d'accord, totalement. Parce qu'il se revendique comme fasciste. Pour lui, c'est pas un gros mot. Il dit fasciste, lui, d'ailleurs. Il dit pas fasciste. En gros, ceux qui disent fasciste, c'est ceux qui sont contre. Et ceux qui disent fasciste, c'est ceux qui sont pour. Donc, oui, il se revendique totalement fasciste, clairement.
Merci d'avoir été en duplex avec nous. Merci à France Bleu Provence qui a permis ce duplex. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mon cousin le fasciste. Alors ça, c'est ce qu'il dit, votre cousin. Moi, je vais dire Mon cousin le fasciste. Valérie Higounet, Les Français d'abord, slogan et viralité du discours Front National 1972-2017 et L'illusion nationale. C'est donc le livre que vous publiez avec Vincent Jarousseau. Et merci à tous les trois.